Il n'y a pas de fatalité que nous ne puissions pas vaincre.
Avoir raison avec Jacques Ellul, Juliette Devaux.
Seulement alors, il faut des raisons très profondes pour se mettre à lutter. Il faut avoir des convictions très fortes.
Bonjour et bienvenue dans notre série consacrée à Jacques Ellul. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, Jacques Ellul, un théologien critique de la religion. C'est un jour d'août 1930 que Jacques Ellul, alors âgé de 17 ans, rencontre Dieu et qu'il décide de se convertir au protestantisme. Le choix de cette conversion découle bien d'une décision individuelle, réfléchie et motivée par une lecture rigoureuse de la Bible, livre fondamental qui l'accompagnera toute sa vie. Dans sa trilogie théologique et éthique, il s'attache à penser les liens entre la liberté et la foi chrétienne, car pour lui, avoir la foi offre un espace de liberté vis-à-vis des systèmes de pouvoir. Si c'est bien vers la foi que Jacques Ellul se tourne pour trouver une échappatoire aux injonctions de nos sociétés modernes, c'est parce qu'il la distingue très fermement de la religion. L'Église, en s'institutionnalisant au cours des siècles, en devenant précisément religion, a trahi les croyants. C'est la thèse de son ouvrage le plus corrosif qui vient compléter cette trilogie, la subversion du christianisme. Comment, toute sa vie, Jacques Ellul a-t-il œuvré pour que l'Église réinvestisse son rôle originel de contre-pouvoir? Pourquoi perçoit-il dans la foi chrétienne un anticonformisme salvateur dans nos sociétés techniciennes? En somme, comment avoir raison avec la théologie de Jacques Ellul? C'est ce que nous allons voir dans ce troisième épisode.
Et je serais tenté de dire que pour prendre la foi au sérieux, il faudrait commencer peut-être par la critiquer.
Oui,
et c'est ce que vous faites.
Oui, exactement.
Vous êtes donc un bon croyant, puisque vous êtes lucide.
Vous venez de dire que je suis un bon croyant?
Oui.
Ah non, je ne suis pas du tout un bon croyant.
Et pour en parler, je suis ravie de vous recevoir, Frédéric Rognon. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de la pensée de Jacques Ellul. Vous lui avez consacré 8 ouvrages, donc pour comprendre la pensée de Jacques Ellul aux éditions Olivetan en 2022. Vous êtes également pasteur de l'Église protestante de France et directeur de publication au sein de la revue Foi et Vie que Jacques Ellul a dirigé fut un temps. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors déjà, pour commencer, il faut peut-être rappeler que l'œuvre de Jacques Ellul est une œuvre qui a été pensée de manière dialectique entre, d'un côté, son œuvre sociopolitique dédiée à la technique et, de l'autre, son œuvre théologique qui s'organise autour de 3 ouvrages principaux, Le vouloir et le faire en 1964, Éthique de la liberté en 1975 et Les combats de la liberté en 1984. Alors, est-ce qu'on peut lire une partie de son œuvre, la partie sociopolitique, sans lire la partie théologique?
On peut toujours lire seulement une partie, mais lui-même disait que si on se consacre uniquement à la lecture d'une partie, on ampute la logique même de son œuvre. Et il rendait compte de cette dialectique en disant « c'est parce que je suis croyant, que je suis chrétien, que mon analyse de la société technicienne peut aller jusqu'au bout, jusqu'aux conséquences ultimes de ces recherches. Sinon, si je n'avais pas l'espérance chrétienne, j'aurais arrêté mes recherches en cours, ou bien je me serais suicidé », dit-il. Inversement, c'est parce que je suis juriste, sociologue, historien, c'est-à-dire j'ai le souci des faits concrets, que ma théologie est tout sauf désincarnée, tout sauf hors sol, qu'elle est pleinement en prise avec les réalités de notre quotidien.
Alors, on peut lire son œuvre théologique sans être croyant a priori, mais est-ce que lui, en l'écrivant, s'adressait plutôt aux croyants qu'aux non-croyants ?
Alors effectivement, le versant théologique, qui représente à peu près la moitié de l'œuvre, plus de 35 volumes, le versant théologique s'adresse plutôt aux chrétiens, puisque Jacques Ellul confesse sa foi chrétienne, il en rend compte au long des pages, des dizaines, des centaines de pages. Après, elle peut être lue par tout un chacun, que l'on soit croyant ou non, mais lui-même s'adressait prioritairement à ceux qui sont en communion de foi avec lui.
Mmh. Alors, la Bible fait partie vraiment des livres qui l'ont marqué et qui l'ont accompagné toute sa vie. Et c'est un livre qu'il découvre tôt parce qu'on apprend en lisant un petit peu sur la vie de Jacques Ellul qu'il rentrait de l'école et qu'il allait directement lire la Bible. Comment expliquer cet intérêt dès l'enfance, alors même que son contexte familial ne l'incitait pas à s'intéresser à la Bible?
Effectivement, il était passionné par les histoires, par les narrations bibliques. Jusqu'à sa conversion à l'âge de 17 ans, il lisait assidûment la Bible, mais comme un document historique, comme voilà un ensemble de grands récits qui n'avaient pas forcément un impact dans sa vie. C'est seulement à partir de sa conversion que la Bible est devenue pour lui parole de Dieu. Mais il était passionné par ces histoires, par ce livre qui est quand même assez extraordinaire.
Peut-être racontez-nous en effet, sa conversion, il était assez pudique, il l'a raconté peu, mais comment ça s'est passé, cette rencontre avec Dieu ?
De manière tout à fait inattendue, il ne cherchait pas du tout à rencontrer Dieu. Il était en train de faire quelque chose qui n'a rien de chrétien, rien de religieux. Il était en train de traduire le Faust de Goethe, de l'allemand en français. Et puis d'un seul coup, il a eu l'évidence de la présence de Dieu à ses côtés. Et ça lui a fait très peur, parce que en tant que voilà un jeune de 17 ans, très attaché à sa liberté notamment, il avait peur de perdre sa liberté en devenant chrétien. Alors sa première réaction, ça a été de prendre sa bicyclette et de faire plusieurs dizaines de kilomètres dans la campagne en vélo. Et puis finalement, il est rentré chez lui. Et la deuxième réaction, ça a été de se jeter dans toute la littérature anti-religieuse. Et pendant plusieurs mois, pendant à peu près 6 mois, il a résisté contre cette conversion en essayant de voir si elle tenait le coup face à cette littérature anti-chrétienne notamment. Et finalement, au bout de 6 mois, il a accepté d'être chrétien, il a accepté d'être croyant. C'est pourquoi il va dire... En fait, on dit qu'on a la foi ou qu'on l'a pas, mais en réalité, c'est elle qui nous a. C'est la foi qui nous a et pas nous qui avons la foi.
Mmh. Et suite à cette rencontre avec Dieu, il va choisir le protestantisme et c'est vraiment un choix éclairé. On l'écoute à ce sujet, c'était sur Radioscopie.
Pourquoi n'êtes-vous pas catholique ? Eh bien, au fond, lorsque j'ai eu à choisir, parce que j'avais aucun choix délibéré fait d'avance, l'important pour moi, c'était ce que j'avais rencontré dans la Bible, et disons que vers 1933-34, le catholicisme me paraissait relativement moins proche de la Bible que ce que je lisais des auteurs protestants.
Alors, donc, il choisit le protestantisme et toute sa vie, il va s'attacher à penser et à réfléchir à la liberté permise par la foi. Peut-être expliquez-nous déjà pourquoi il s'intéresse à la liberté dans la foi et en quoi elle consiste, selon lui.
Eh bien, puisqu'il a finalement choisi d'être chrétien, comprenant qu'il n'allait rien perdre de la liberté, il était attaché à la liberté comme un jeune de 17 ans, mais il a réalisé qu'en devenant chrétien, il allait non pas perdre sa liberté, mais accéder à la seule véritable liberté, celle qu'il appelle la liberté en Christ, alors que toutes les autres libertés auxquelles il était attaché, liberté de mœurs, liberté d'opinion, liberté politique, eh bien, toutes ces libertés-là sont des libertés superficielles. Pourquoi ? Eh bien, parce que les libertés de mœurs, liberté politique, liberté d'opinion, sont des libertés par rapport à un objet extérieur à soi. Liberté de mœurs par rapport à un ordre moral, celui des générations antérieures. Liberté politique, liberté d'opinion, bien, par rapport à un régime autoritaire, par rapport à une censure. Toujours par rapport à un objet extérieur. Alors que la liberté en Christ a ceci de particulier qu'il s'agit d'une liberté par rapport à soi-même. Et c'est cela qu'il va développer dans l'éthique de la liberté, notamment quelques années plus tard. C'est cela qui fait l'originalité, la spécificité et la profondeur et l'authenticité de cette liberté. Il s'agit d'être dégagé de soi-même, d'être dépréoccupé de soi-même pour pouvoir s'engager librement.
Il est très influencé par Kierkegaard sur cette question.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, Kierkegaard est vraiment l'auteur, le philosophe et le théologien de référence pour lui. C'est lui qui va vraiment irriguer toute sa réflexion.
Alors, on va passer maintenant à la dimension un petit peu plus politique de son œuvre théologique, parce qu'il faut quand même le rappeler, Jacques Ellul n'aime pas beaucoup les institutions, et il considère que le message initial du Christ, donc un message libérateur, a été trahi au cours des siècles par les institutions religieuses. Et c'est une thèse qu'il développe dans un livre qui s'appelle « La subversion du christianisme » paru en 1984. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette thèse et ce livre ?
Pour Jacques Ellul, le message du Christ et les comportements du Christ sont une mise en question permanente de tous les ordres politiques, économiques, sociaux, religieux, moraux. Et donc, c'est ce qui l'amène à dire que le Christ est un subversif, que l'évangile, le message du Christ, est subversif par nature. Or, ce que les églises, et toutes les églises, ont fait depuis 2000 ans, elles n'ont eu de cesse que de subvertir la subversion, c'est-à-dire renverser cette mise en question, au contraire s'allier, au contraire cautionner tous les ordres politiques et tous, depuis la monarchie jusqu'à la dictature, le communisme ou la démocratie ou la république, tous les ordres ont été un jour cautionnés par les églises. Tous les ordres politiques, tous les ordres économiques, même les plus injustes, les ordres moraux, même les plus culpabilisateurs, les plus infantilisants. Les ordres économiques, les ordres politiques, les ordres militaires, tous ont été en quelque sorte cautionnés par les églises et donc les églises ont fait le contraire, non pas autre chose, mais le contraire de ce que le Christ enseignait. Et donc Jacques Ellul, à la fin de ce livre, La subversion du christianisme, invite son lecteur, sa lectrice, à amorcer la subversion de la subversion de la subversion, c'est-à-dire d'en revenir au Christ.
Et il va même jusqu'à présenter Jésus-Christ comme une figure anarchiste dans un livre Anarchie et christianisme. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Comment on peut imaginer Jésus-Christ en anarchiste ?
Eh bien, pour Jacques Ellul, c'est assez clair. C'est la lecture qu'il propose des textes bibliques. Il y a cette dimension de contestation de l'État, de contestation des pouvoirs établis, de contestation des ordres moraux, et même de contestation du statut d'infériorité de la femme. Jésus est vraiment l'émancipateur de la femme, et les Églises au cours des siècles n'ont fait que la ramener à un statut de minorité. Et donc l'Évangile, et même la Bible dans sa globalité, même le Premier Testament, sont à ses yeux un message qu'on peut comprendre comme un message libertaire.
Et il déplore vraiment la trahison de l'Église, on l'écoute à ce sujet.
Si l'Église avait joué son rôle, elle aurait été effectivement en face des pouvoirs politiques, ce contre-pouvoir, disant non quand il y avait lieu de dire non, et disant il faut quand il y avait lieu de dire il faut, et apprenant au pouvoir ce qu'il y a à faire, alors que l'Église s'est laissée absorber par le pouvoir, elle est devenue un contrefort, elle est devenue, après tout c'était très agréable d'être reconnue.
C'est une sorte de corruption du christianisme par la puissance.
Oui, et puis christianisme transformé en religion, transformé en organisation de la société, en appui. Et au fond, c'est extraordinaire de penser à cette société qui est issue du christianisme et où il n'y a plus rien de chrétien. C'est vraiment un des défis de l'histoire, ça. Quand même, se trouver en présence d'un message qui était un message d'amour et de fraternité, de non-imposition de la vérité, un message où l'on s'offre soi-même comme gage de ce que l'on dit, et avoir transformé cela en un pouvoir social, en un pouvoir organisé, c'est pour moi, je m'en suis jamais consolé.
Il s'en est jamais consolé, mais il aura quand même essayé tout au long de sa vie à redonner à l'Église son rôle de contre-pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va intégrer, qu'il va s'impliquer aussi dans les institutions ecclésiales. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette implication ?
Jacques Ellul ne fait pas une critique de l'extérieur de l'Église, et notamment de son Église, qui s'appelait à l'époque l'Église réformée de France. Il va s'y engagé à l'intérieur même des institutions qu'il critique, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional et au niveau national, jusqu'aux instances décisionnelles, jusqu'au Conseil national de l'Église réformée de France, dont il sera membre pendant une douzaine d'années. Mais de l'intérieur, il énonce cette critique de la marche de l'Église qui trahit, effectivement, qui trahit le message du Christ. Et ce qu'il reproche le plus à l'Église, c'est de cautionner toutes les modes intellectuelles, tous les courants d'opinion, tous les courants sociologiques, d'être dans le suivisme, en quelque sorte. Et ce qu'il aurait aimé, c'est que l'Église soit une sorte de contre-pouvoir, de critique permanente, notamment des idoles modernes, de l'idole technicienne, de l'idole politique, de tout ce qu'on a absolutisé, de tout ce qu'on a idolâtré. Or, il sera très déçu à ce sujet. Il avait un espoir que cela se fasse, mais au bout du compte, il va être assez dépité de voir que l'Église ne l'a pas écouté.
Pour Jacques Ellul, le fait d'être croyant implique d'être seul, implique d'être anticonformiste. On peut se demander dans quelle mesure c'est aussi dans sa foi qu'il a trouvé la force de s'élever à certains moments de sa vie contre l'ordre, contre des grands courants de pensée. Est-ce que vous pensez que c'est sa foi qui l'a mené, par exemple, à s'engager dans la résistance ou à se battre pour la nature en Aquitaine ?
Alors très clairement, sa foi a joué un rôle, c'est pas le seul facteur, mais elle a joué un rôle décisif dans tous les engagements qu'il a pris, que ce soit dans la résistance, donc la résistance non violente, hein, il n'a pas pris les armes, mais il a consacré toute son énergie pendant l'occupation nazie à fabriquer des faux papiers, à cacher des personnes, à sauver des familles juives en particulier, et cela, très clairement, c'est la foi qui lui donnait ce courage, cette audace, hein, cette prise de risque. De même, quand il s'est engagé sur la défense de la côte d'Aquitaine qui était menacée par un projet de bétonnage et de défiguration, il est clair que là, c'est sa relecture des textes bibliques qui l'amène à vouloir sauvegarder la création, respecter ce que Dieu a fait, au lieu de défigurer, au lieu d'écraser par des projets tout à fait prométhéens, hein, tout à fait dantesques. Et certainement, sa foi et son espérance l'ont amené non seulement à s'engager, mais à rester engagé lorsqu'il échouait, lorsque les déconvenues s'accumulaient. La foi pour lui et l'espérance sont une ressource, sont un moteur de persévérance malgré les échecs.
Alors on reviendra sur ce concept d'espérance parce qu'il est vraiment intéressant, mais peut-être avant ça, il considère que être chrétien octroie une forme de liberté, mais aussi implique une forme de responsabilité. C'est peut-être ça aussi qui l'a mené à prendre position, à s'impliquer de cette manière-là.
Tout à fait. La foi n'est pas du tout une sorte de retour à l'infantilisation. Son rapport à la Bible est intéressant quand on voit comment il la lit avec les yeux de la foi. Il ne lit pas la Bible comme une série de recettes, ni même comme une série de réponses à nos questions. Il lit la Bible comme des questions, livre de questions que Dieu pose au lecteur croyant. Et donc, chaque fois qu'il rencontre dans la Bible une question qui est posée par Dieu à l'un des personnages bibliques, il prend cette question pour lui-même. Lorsque Dieu demande à Caïn, après le meurtre d'Abel, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Eh bien, c'est moi qui, lisant la Bible, reçois cette question « Qu'est-ce que j'ai fait de mon frère ou de ma sœur ?» Lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Eh bien, c'est à moi qu'il pose la question « Qui est pour moi le Christ ? Quel est le sens de ma vie ?» Et vous voyez que cette lecture est très responsabilisante, elle n'est pas du tout infantilisante, elle n'a pas réponse à tout, puisque c'est le lecteur qui va devoir trouver la réponse, qui va devoir donc répondre aux questions de Dieu, et surtout, plus que répondre, en répondre. Il va en répondre par sa vie et par ses engagements.
Alors s'il a échoué selon lui à moderniser l'institution ecclésiale à l'échelon national, il va s'impliquer quand même à l'échelon local dans la transmission de cette foi, puisqu'il n'est pas pasteur, mais il reçoit quand même l'autorisation d'organiser des cultes. Il obtient une délégation pastorale qui fait que voilà, il pratique le culte dans sa maison à Pessac. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement ces activités-là chez lui?
Jacques Ellul, effectivement, a obtenu ce qu'on appelait une délégation pastorale permanente, donc l'autorisation pour un laïc formé, et il était formé en théologie, capable de lire la Bible en hébreu et en grec, par exemple, de pratiquer toutes les activités pastorales, toutes les activités d'un pasteur. Et il tenait beaucoup à l'engagement et à la, aux responsabilités des laïcs dans l'Église. Il en est un bel exemple. Et donc, sans être lui-même pasteur, il a pratiqué, il a agi comme un pasteur, célébrant des cultes, mariant, enterrant, baptisant, faisant des visites à domicile, organisant des études bibliques, et donc animant. Pendant une dizaine d'années, il était donc l'animateur de cette communauté de Pessac, qu'il a créée lui-même. Il n'y avait pas de paroisse à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux, avant son arrivée, et c'est lui-même qui a donc joué le rôle de pasteur au niveau local.
Et comment aujourd'hui les protestants perçoivent Jacques Ellul ? Est-ce qu'il y a des personnes protestantes qui se revendiquent de Jacques Ellul, qui l'ont connu et oui, qui se revendiquent de sa pensée, de son approche religieuse ?
Alors, de son vivant, il avait des amis parmi les protestants, bien entendu, mais globalement, l'institution ne l'a pas reconnu. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. Beaucoup de protestants redécouvrent ou découvrent Jacques Ellul, et même l'institution, l'Église protestante unie de France, par exemple dans son synode de 2021 consacré à l'écologie, considérait que Jacques Ellul était une référence incontournable et a repris un certain nombre de ses textes, y compris la notion de non-puissance qu'elle a traduit en puissance retenue. Donc dans les textes du synode de 2021, il est question à plusieurs reprises de la puissance retenue, qui est vraiment l'émanation de ce que Jacques Ellul appelait la non-puissance. Donc aujourd'hui, l'Église protestante unie de France a fait la place, a fait droit à la pensée de Jacques Ellul de manière vraiment décisive.
Alors ce concept de non-puissance, on l'évoquera dans des prochains épisodes, parce que en fait, il permet de justement lutter contre les dérives de la société technicienne selon lui. Il y a un autre concept qui est tout à fait intéressant, qui est le concept de l'espérance que vous avez évoqué un petit peu plus tôt. Ce concept de l'espérance, il est à distinguer de l'espoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Dans un livre de 1972 intitulé « L'espérance oubliée », Jacques Ellul non seulement distingue mais oppose espoir et espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre. Mais paradoxalement, quand on a de l'espoir, eh bien, on est plus ou moins passif, parce que on considère que les choses vont s'améliorer. Alors que l'espérance repose sur le désespoir. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est dans sa pensée, c'est une dialectique en fait, une dialectique à trois termes, espoir, désespoir et espérance. Donc le désespoir consiste à voir l'avenir totalement bouché, hein, il n'y a plus aucune perspective d'amélioration. Et l'espérance, eh bien, elle va se nourrir du terreau du désespoir. L'espérance ne peut pas surgir tant qu'il y a de l'espoir. Par contre, quand on est en désespoir, et c'est, me semble-t-il, pour beaucoup de nos contemporains, la situation actuelle, quand on est dans une situation de total échec collectif au niveau de la planète, alors peut surgir l'espérance. Alors qu'est-ce que l'espérance ? Eh bien, ce n'est pas du tout de faire confiance aux capacités humaines d'innovation technologique, d'innovation politique, pour traverser les crises. C'est au contraire se défier de toutes les ambiguïtés de l'être humain et des œuvres humaines pour se tourner vers les promesses de Dieu. Dieu a promis sa présence auprès de nous tout au long de l'histoire. Alors, l'espérance ne concerne pas seulement la fin des temps, elle concerne aussi, hein, pour les chrétiens, la résurrection, la vie éternelle, le royaume de Dieu, mais elle concerne d'abord le quotidien, aujourd'hui, demain et après-demain, et elle consiste donc à s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur la promesse de sa présence, pour se savoir porté, pour se savoir tenu dans les engagements du quotidien. Donc il s'agit de s'engager. L'espérance est un moteur pour l'action, alors que l'espoir, au contraire, tend à endormir. L'espérance est un moteur pour l'action pour aujourd'hui et pour demain, parce qu'on se sait porté par un plus grand que nous.
Vous parlez d'engagement dégagé, il me semble.
Tout à fait. Là aussi, il y a une autre dialectique à trois termes chez Jacques Ellul. L'engagement, le désengagement et l'engagement dégagé. Ou le dégagement. Donc l'engagement, c'est le fait de faire quelque chose. Le désengagement, c'est le fait de ne rien faire. Et l'engagement dégagé, qu'il prône, hein, qu'il considère comme étant l'attitude chrétienne par excellence, consiste à être d'abord libéré par le Christ, c'est-à-dire libéré de soi-même, dégagé de soi, pour pouvoir s'engager pleinement, non pas l'engagement pour l'engagement, mais un engagement qui repose sur ce dégagement préalable.
Et on va d'ailleurs écouter un extrait du livre « L'espérance oubliée » dans lequel il explique ce qu'il entend par « espérance ». L'espoir est la malédiction de l'homme. Car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant que, dans une situation terrible, il s'imagine qu'il y a une porte de sortie, il ne fait rien pour changer la situation. C'est pourquoi, depuis tant d'années, j'essaie de fermer les fausses issues du faux espoir de l'homme. L'espérance, au contraire, n'a de lien, de sens, de raison, que lorsque le pire est tenu pour certain. L'espérance, c'est la passion de l'impossible. Elle n'a de sens, de lieu, de raison d'être, que là où rien n'est effectivement plus possible, et qu'elle fait appel non pas à la dernière ressource de l'homme, ou à quelques seconds souffles, mais à la décision extrinsèque qui peut tout transformer.
Ça peut être en effet un concept intéressant à mobiliser aujourd'hui dans le contexte de crise écologique, de réchauffement climatique, où on a l'impression qu'on est dans une époque un petit peu désespérée. Ce concept d'espérance résonne en effet. Est-ce que des personnes qui n'ont pas la foi peuvent accéder à cette espérance ?
Alors Jacques Ellul le dit lui-même, l'espérance n'est pas l'apanage des chrétiens, elle peut très bien être partagée par d'autres. Simplement, c'est aux non-chrétiens de rendre compte de ce qui nourrit leur espérance. Lui-même, en tant que chrétien, il enracinait son espérance dans les promesses du Dieu de Jésus-Christ. Mais il n'était pas exclusiviste en ce sens-là.
Mais où est-ce qu'on peut trouver des motifs d'espérance ailleurs que dans la foi ?
Alors ça, c'est à chacun de le dire. Certains vont le trouver dans d'autres courants spirituels, dans d'autres courants de pensée. Certains vont s'appuyer sur l'inconscient. Hein. Il y a des recherches du point de vue de la psychanalyse qui peut apporter peut-être des éléments d'espérance quand on voit une personne qui accède à une certaine émancipation, à une certaine autonomie. Voilà, il y a des possibilités de trouver de l'espérance dans des instances qui transcendent notre réalité quotidienne. C'est ça qui compte. L'espérance s'appuie sur une instance qui est au-delà de ce qui fait notre réalité au sein du système technicien.
Une dernière question que je vais vous poser sur comment il se percevait, lui, en tant que... Alors, croyant, il n'aime pas trop ce terme, mais en tant qu'individu qui a la foi chrétienne, à la fin de sa vie, il se revendiquait, il se disait anarchiste chrétien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste pour lui ?
Alors, il ne se revendiquait pas comme anarchiste chrétien, mais comme chrétien anarchiste.
Mais justement, voilà, il ne fallait pas que je fasse l'erreur, je l'ai faite.
Et pour lui, c'était important d'avoir cet ordre-là. Non pas anarchiste chrétien, mais chrétien anarchiste, parce qu'il est d'abord chrétien. Et paradoxalement, il est un chrétien qui ne croit pas à la possibilité d'une société anarchiste. Parce qu'il est chrétien, et notamment marqué par la tradition calvinienne, la tradition de Calvin, l'homme n'est pas bon par nature, et donc une société sans État, sans police, sans armée n'est pas possible. Donc une société anarchiste n'est pas possible. Et cependant, il se dit chrétien anarchiste parce qu'il considère que l'être humain, et notamment le chrétien, est toujours appelé à s'engager pour desserrer l'étau de l'État, pour desserrer cette emprise de l'État sur nos vies. Et donc, il est un compagnon de route des anarchistes, mais il est un chrétien anarchiste pleinement engagé dans des combats de type anarchiste.
Et merci beaucoup Frédéric Rognon pour votre éclairage. Je rappelle votre ouvrage que vous avez publié aux éditions Olivier Temps pour comprendre la pensée de Jacques Ellul, mais il y en a bien d'autres que vous avez consacrés à la pensée de Jacques Ellul. Merci d'être venu à Paris pour nous éclairer.
Merci à vous.
Et un grand merci à la réalisation de cette émission, Manouchak Fachaï et Margot Page. Et à la technique, c'était Élise Gueux.